du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous allons reprendre notre dictionnaire des titres et continuer à vous dévoiler ce qui se cache derrière les titres de morceaux de jazz. Et nous allons commencer dans l'opulence.
Avec la lettre H, il y a un titre qui est House of Morgan. Et c'est de...
Lionel Hampton. Le morceau est de Lionel Hampton et le disque également d'ailleurs.
On se dit, mais qui est ce Morgan House? En réalité, il s'agit d'une célèbre banque fondée par un Morgan.
Un nommé Junius Pierpont Morgan.
Wow, c'est beau, non?
C'était une banque d'investissement et de placement, et elle s'est considérablement étoffée avec des placements dans l'industrie, avec des compagnies d'assurance, etc.
Et c'était devenu une sorte de symbole de richesse institutionnelle, genre Rothschild. Voyez.
D'ailleurs, le fils de ce Junius, John Pierpont Morgan, alors lui, il est devenu quelqu'un qui avait une énorme influence financière dans la gestion même de l'État. Donc, quand on passait devant une banque Morgan, tout le monde disait « Tiens, voilà la maison de Morgan !»
Et en réalité, c'était un jeu de mots, figurez-vous, parce que dans l'entourage de Hampton, il y avait quelqu'un qui s'appelait Richard Morgan et qui n'avait rien à voir avec le banquier et qui était l'oncle de Hampton. Alors lui, il faisait de l'argent, lui aussi, mais pas tout à fait de façon légale. Il était bootlegger. Alors bootlegger, c'est quelqu'un qui vend de l'alcool, en général frelaté, qui ne vous rend pas vraiment service pour la santé, mais c'était de l'alcool à une époque où c'était interdit en Amérique. Et ça rapportait là aussi des sous.
Ah oui, ça rapportait gros. Et d'ailleurs, à quel endroit la coupable industrie de M. Richard Morgan s'exerçait-elle?
À Chicago. Chicago, vous savez, c'est un peu le royaume des gangsters. Hein.
Surtout à cette époque. Mais, détail peu connu, l'oncle de Lionel Hampton, donc ce Richard Morgan, était également le dernier compagnon de Bessie Smith, son manager dans la dernière partie de sa carrière, et malheureusement, le chauffeur de sa voiture lorsque la pauvre Bessie Smith est morte des suites d'un accident de voiture terrible survenu dans le Mississippi.
Ce House of Morgan, il y a plein d'histoires à raconter dessus, mais il y a aussi à l'écouter.
Quand même, hein, cette espèce de confrontation de l'opulence et de la détresse, ça ressemble pas mal à un jeu que nous connaissons bien et qui s'appelle...
Le Monopoly.
Thank you. le morceau suivant prête à la devinette.
Écoutez bien et dites-moi si ça vous dit quelque chose. Hooba, hooba, hum.
À qui pensez-vous? Moi, ça me fait penser tout de suite au marsupilami.
Ah, le cri du marsupilami. Mais pour les Américains, c'était pas le cri du marsupilami, c'était le cri que poussaient les gars quand ils voyaient arriver une chouette fille.
Et au lieu d'envoyer un long coup de sifflet ou bien de faire comme le loup des dessins animés de Tex Avery, wouh! Eh ben, il y a eu une époque où la mode, c'était de s'écrier « Houba, houba, houb !»
Alors la fille, naturellement, était très flattée. Elle faisait semblant de ne pas avoir entendu.
Par les temps qui courent, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas trop interpréter la réaction de la fille parce que ça pourrait nous mener loin. Moi, je me méfie quand même. J'ai pas envie de terminer mon existence sur la paille humide des cachots. Toujours est-il que je pense que Franquin connaissait le jazz et qu'il le connaissait peut-être pas mal dans les coins parce que c'est vraiment le cri de marsupilami. C'est une interprétation de Jonah Jones. Et dans un orchestre à cette époque-là, il y avait un formidable saxophoniste ténor.
Ike Quebec, mais qui pourrait se dire Québec.
Oui, mais là-bas, on disait Québec, c'est comme ça. En tout cas, Québec ou pas, il est formidable dans ce disque-là.
Thank you.
Est-ce que tu sais ce que c'est que des comics ?
En Amérique, les comics sont des bandes dessinées, souvent assez rigolotes, qui passent dans les journaux.
Mais très très courtes. C'est juste une ligne, hein. Il y a quelques images et ça peut faire un gag en 5 cases ou bien être une série suivie. Du temps de notre enfance, la dernière page de François était entièrement ornée de comics. Alors là, c'était des histoires qui se suivaient et la plus célèbre s'appelait Juliette de mon cœur, docteur Balsa.
Oh si, mon Dieu, mon Dieu.
C'est un machin qui n'en finissait pas, alors tu étais 4312e épisode. Donc il y avait un auteur de comics qui était assez connu à l'époque et qui était un fan de l'orchestre Bob Crosby.
Et il était tellement fan que souvent dans ses bandes dessinées, il mettait des petites allusions à cet orchestre ou aux personnes de l'orchestre. Et il y avait même un personnage qui disait toujours la même chose.
Je vous écoute, je vous écoute. Tu sais, comme on dit, appelez-moi un taxi, tu sais, il y a des trucs comme ça récurrents qui marquent le caractère du personnage, en fait.
En anglais, I hear you taking. Je vous écoute, mais je vous écoute. Ah oui, je vous écoute.
Et ce petit bout de phrase a servi de titre à un morceau que l'orchestre de Bob Crosby a naturellement dédié à cet auteur de comics. Alors, pour les érudits, nous ajouterons que l'auteur en question s'appelait Carl Head. Et la bande dessinée, les comics, s'appelait Les Aventures de Harold Teen. Et que le personnage affublé de ce tic verbal s'appelait Shadow. Maintenant, vous savez tout. Voici Bob Crosby et son fameux batteur de la Nouvelle-Orléans, Ray Bauduc. Voici maintenant un célèbre disque de Louis Armstrong qui s'appelle I'm a Ding Dong Daddy from Dumas. Dumas écrit Dumas, c'est une petite ville de l'Arkansas, c'est un peu anecdotique.
Cette ville fait partie des villes qui ont été fondées par des Français et qui était la ville de Dumas. Et bien sûr, les Américains l'ont transformée avec leur accent en Dumas.
Très bien. Et bien maintenant, expliquez-nous donc ce que c'est qu'un Ding Dong Daddy, s'il vous plaît.
Bon, alors, pour le moment, les petites oreilles ne nous écoutent pas vraiment, mais un daddy, c'est un gars, c'est un mec. Et puis, I'm a Ding Dong, ça veut dire je suis un mec qui, quand il s'occupe des filles, il est tellement bon que ça fait Ding Dong.
Elles disent, il va bien sonner les cloches.
Et ben voilà, c'est l'expression qui veut tout dire.
En Amérique.
En Amérique.
Parce que si on dit autre chose, on parle de on dira rien de plus. De toute façon, le morceau est absolument terrible. Et alors, à la batterie, nous avons Lionel Hampton, que nous avons entendu tout à l'heure dans House of Morgan. Il faut savoir que Lionel Hampton, au départ, et tout au long de sa vie d'ailleurs, c'est un batteur. C'est un des plus grands batteurs de jazz. Et non seulement c'est un batteur, mais était capable de jouer en jonglant avec sa batterie d'une manière absolument incroyable. Et quand je dis incroyable, croyez-nous quand même, parce que nous, on l'a vu faire. C'était assez extraordinaire.
Bon, et maintenant, écoutez bien les cloches.
Et voici maintenant un mot qui a vraiment eu une très belle carrière. En français, ça veut dire littéralement « sillon ». C'est le mot
« groove ».
Ah, le groove, il a servi à beaucoup de choses. Alors au départ, donc, c'est le sillon du disque.
Quand les musiciens se sentent dans une sorte de ligne que eux-mêmes vont créer parce qu'ils ont l'idée, ça y est, la musique, je sais où je vais, je suis dans le sillon. In the groove.
Exactement. On pourrait presque dire d'ailleurs qu'à ce moment-là, il est bien dans ses baskets. Mais alors ce mot, il a vraiment une fortune tout à fait exceptionnelle parce que déjà, in the groove, point de vue langage, on est déjà sorti du détail technique qui est un sillon de gravure de disque. Et puis c'est passé en français.
Les jeunes musiciens, ils ont repris donc, comme tu disais, cette expression avec une espèce de force, la même un peu, pour dire... Qu'est-ce que je suis bien ! Et ils le disent actuellement.
Et il s'agit des jeunes musiciens français. L'autre jour, il y en a un qui m'a dit « Oh là là, là vraiment ça groovait !» Ou « Là on était vraiment dans le groove !» Tu vois, ça sert énormément et c'est toujours associé à une notion de plénitude et de confort musical, ce qui est quand même pas mal. Mais, ce groove que nous allons entendre qui est dû à l'orchestre de Andy Kirk, il fait allusion à une boîte de Harlem qui s'appelait le
Coconut Groove.
Quelle polyvalence que ce groove-là! Le morceau que voilà est dédié aux collectionneurs de mugs.
Vous savez tous maintenant ce que c'est que des mugs. C'est une sorte de gobelet à anse.
Une chope.
Ou de chope, très pratique. Et je crois me souvenir qu'effectivement, le début des mugs, c'était des gobelets avec des personnages soit sculptés, soit imprimés dessus. Et que... on distribuait parfois dans des grandes festivités. Et alors c'est intéressant parce que quand on dit « mugging », ça veut dire ce qui est le titre du morceau « I see a mugging ». J'ai vu un type qui faisait une figure de mug.
En argot musical, ça désigne les mimiques que quelqu'un fait lorsqu'il chante. Alors évidemment, le prototype de ça, c'est Louis Armstrong.
Évidemment. Avec sa bouche... en forme de porte cochère, donc très ouverte.
Porte cochère ou bien gypsière ou sacoche, d'où son fameux surnom de Satchel Mouse ou de Satchmo. Et nous ajoutons que pour avoir vu sur scène Louis Armstrong en vrai, eh ben c'est bien lui qui était le parfait exemple de cette expression. Son visage était tout le temps en mouvement quand il chantait et c'était quelque chose d'extrêmement convaincant. Ce I See a Mugging est un morceau assez connu dans le jazz et le fameux quintet de Club de France de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli s'était emparé de ce morceau pour l'ajouter à son répertoire. Détail piquant, dans un autre argot, un mug c'est une attaque à main armée. Alors vous en ferez ce que vous voulez.
The muggin' boom, we the muggin' boom, eyes the muggin' boom, da do do ba boo ba do. I's a muggin' boom, we's a muggin' bang, I's a muggin' boom, bebop, 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 bebop. Nobody knows just how it started. Somebody blew it through a horn. Somebody played it on the fiddle. Somebody sang it and a song was born. Now it's the craze, the new sensation. It's the song that the bands all swing. Now it's the phrase that rocks the nation. Don't try to stop me cause I'm gonna sing. I's a muggin' boom, we's a muggin' bang, I's a muggin' boom, boo-bop-dee-bop, boo-bop-dee-ho. Muggin' boom, we's a muggin' bang, I's a muggin' splash, whoop right through, I's a muggin' boom, we's a muggin' splang, I's a muggin' boom, right through the natty do that, Dangle's muggin', old Stephen's muggin'. Oh, everybody's mug on down. Oh, the mug, mug, mug it, the mug is fast.
Eh bien, il n'est pas tellement tard au moment où nous vous parlons, mais voici pourtant le marchand de sable.
Et oui, le morceau s'appelle It's Sandman. Sand, c'est le sable, et man, c'est le type...
À qui on s'adresse.
À qui on s'adresse.
En fait, ça remonte vieux, ça remonte à l'époque des spectacles que l'on appelait les vaudevilles, où les gens se passaient souvent du noir sur la figure pour imiter les artistes noirs. On appelait aussi ça des minstrel shows.
Et dans cette danse un peu particulière, le danseur jetait du sable sur le plancher et se servait de ce sable pour glisser dessus, mais en faisant une sorte de bruit. Chut, 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 chut. Au bout d'un moment, les patrons de ces endroits-là ont trouvé que c'était quand même problématique parce que le sable et le danseur qui glissait dessus, ça abîmait drôlement le parquet.
Mais on peut remarquer en passant que c'est une variante des claquettes, finalement. C'est un peu aux claquettes ce que le ballet du batteur est à ses baguettes, hein, si on y réfléchit. Et beaucoup plus tard est arrivé un danseur, un grand professionnel, qui s'appelait Eddie Rector.
Comme les patrons n'étaient pas chauds pour qu'ils mettent du sable, il avait trouvé un truc, il mettait du gros sel.
Ça marchait aussi bien.
Oui, ça marchait aussi bien et ça abîmait un tout petit peu moins le plancher.
Le fameux double album de Joe Jones qui s'appelle The Drum, où Joe Jones explique la batterie et fait à la batterie le portrait d'un certain nombre de gens, y compris de danseurs, comporte... un fameux portrait de ce Eddie Rector. Il y a une séquence là-dessus dans un film célèbre qui s'appelle Stormy Weather, un film où on voit beaucoup d'artistes de l'époque. Alors c'est l'année de notre naissance, c'est tout vous dire. On y voit Fats Waller, on y voit le grand Bill Robinson, le fameux danseur à claquettes, et on y voit, sur un riverboat, toute une séquence où quelques cheminots, hein, les hobos dont on parlait il n'y a pas très longtemps, se font un petit concours de danse, et celui qui emporte le morceau, il arrive, il jette du sable sur le pont du bateau, et il se livre à cet exercice. Si vous voyez un jour passer Stormy Weather, ne le manquez pas, et nous espérons, nous, pouvoir, grâce au ciné-club de Saint-Flour, vous le projeter un soir d'été. À suivre, Joe Jones tient la batterie dans le disque de Count Basie que vous allez entendre et qui s'appelle
It's Sandman.
Le titre original du morceau suivant, c'est It's Tight Like That. Mais en fait, il est beaucoup plus connu sous le nom de Tight Like This. Eh bien, ça, c'est une expression qui vient compléter le ding-dong daddy qui sonnait si bien les cloches. C'est ce qu'on dit quand ça s'est très bien passé. Alors, heureuse.
Donc, ça dépend un petit peu de la musique. Si la musique, elle vous emporte, on comprend que ça s'est super bien passé. Mais par contre, si la musique, elle est forte, dramatique, déchirante, on peut dire cette expression aussi, mais il ne s'agit pas du coup du même sentiment.
On peut le voir comme une confrontation entre l'extase et la détresse. Et finalement, c'est cacher et traiter une grande détresse par une sorte de jubilation apparente. Et ça rejoint le blues, qui est également fondé sur une grande détresse et qui ne s'attendrit jamais et qui, quelquefois, termine dans un éclat de rire. Tout ça, c'est très compliqué. Ça se mélange bien dans ce morceau.
Où vous entendrez le trompettiste Alain Martien et le pianiste Philippe Carman. C'est plutôt le côté dramatique qui prédomine.
Simplement, à la fin d'une séance d'enregistrement des deux Moustiers Stompeurs, qui avait duré 2 jours, Alain Martien a demandé que l'ingénieur du son ne débranche pas ses appareils, et il a demandé à Philippe Carman de l'accompagner, car il voulait enregistrer ce morceau. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'Alain Martien est un fan absolu de la musique de Louis Armstrong, et qu'il voulait, de cette façon, lui rendre hommage.
C'est beau, c'est poignant. Écoutez. Et maintenant, I've got to sing a torch song. Ça, c'est de Fletcher Anderson.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un torch song en américain ?
Eh bien, c'est un chant qui raconte une grande, grande déception sentimentale. C'est l'échec, la tristesse, le cœur broyé.
La déconvenue.
Bien sûr.
Mais comme nous disions tout à l'heure, ce n'est pas franchement triste.
D'ailleurs, qui chante son mal l'enchante.
Ah, ça c'est très très bien dit. C'est un vieil adage d'un philibre célèbre. Et ça c'est vrai. Hein. Et là on s'en rend très bien compte. Car en fait, ça pourrait être tristounet. Et là-dedans, Colin Hawkins, qui joue toute la fin du morceau, il n'est pas triste. Il est manifestement gravement marqué quand même. Hein. Mais il n'est pas triste. Il est grandiose.
Le morceau suivant en français, c'est « Je voudrais bien danser le chimie comme ma sœur Kate ».
Le chimie, également appelé le chim-cham-chimie.
C'était une danse très très populaire où on s'agitait particulièrement dans tous les sens.
Oui, alors les hanches de droite à gauche, les épaules de bas en haut. Vous devinez que tout ce qui pouvait bouger, bougeait et…
Ça faisait un chimie.
Pourquoi chimie ? Parce que à force de bouger tout ça, on faisait danser sa chemise.
vieux mot français transformé en chimie.
Voilà, chemise, chimie, nous en conclurons que ça se dansait en chemise.
Oui, alors faut pas oublier que souvent les femmes portaient des robes qui ressemblaient assez à des chemises finalement, puisque c'était la mode à l'époque, et qu'effectivement, il y avait une sorte de liberté du corps, liberté de mouvement du corps.
Oui.
Et qu'on pouvait vraiment, vraiment s'agiter là. Oui. Fallait être assez jeune, hein.
Le chimie que nous allons vous faire entendre, donc, a été enregistré lors d'un concert de Carnegie Hall, juste avant la guerre. Ce concert est resté extraordinairement célèbre, car c'était le premier des très grands concerts multiplateaux. Il y a eu un défilé de vedettes absolument incroyable, et au Carnegie Hall, il y avait tellement de monde que, comme au XVIIe siècle, on a installé du public sur la scène. Il y a des gradins derrière la scène et sur les côtés. C'était extraordinaire. Et ça s'entend. Cet orchestre permet de vous faire entendre le fameux Tommy Ladnier à la trompette et le non moins fameux Sidney Bechet au saxophone soprano.
Bien là, vous allez être étonné parce que on va vous raconter du Armstrong par Armstrong.
Ah, c'est très intéressant.
En réalité, le morceau s'appelle Jack Armstrong Blues. Vous dites, mais Armstrong, il s'appelait pas Jack. Eh bien non, parce qu'en réalité, Jack Armstrong, Armstrong, faut pas oublier que ça veut dire le bras fort. C'est un héros d'émission pour enfants, très célèbre, où il y a un jeune, très fort, très beau, aux yeux bleus, très blond. C'est tout juste, il ne sauve pas la planète.
Ah, il est super musclé, super intelligent. Et alors, ce Jack Armstrong, comme tu dis, c'est tout juste, il ne sauve pas la planète, mais en tout cas, il expurge de sa ville toutes les fripouilles, tous les malfrats. Il en fait une zone de paix absolument totale et il contribue largement à gagner la Deuxième Guerre mondiale.
Et vous savez pourquoi il est comme ça ? Parce qu'il mange...
Au petit déjeuner, les fameuses céréales Wheaties, dont vous ne serez pas étonné naturellement qu'elle soit le sponsor principal de l'émission de radio en question, qui était quotidienne et qui durait un quart d'heure.
Vous voyez, si on ne bourrait pas la tête des enfants avec plein de choses pour faire acheter « Maman, je veux ces céréales-là !»«
Je veux des Wheaties !»
Eh ben voilà.
Et tout ça, c'était à la radio, puisque nous sommes au tournant des années 40, en pleine guerre mondiale. C'est une sorte d'ancêtre de Bonne Nuit les Petits. Et naturellement, Lou Armstrong, dont le trombone et grand copain se prénommait Jack, il s'agissait de Jack Teagarden, n'a pas manqué de tourner un petit peu ce disque en plaisante référence à sa propre situation. Terminer par un vieux souvenir qui nous tient à cœur. Le morceau s'appelle Jackass Blues.
Vous savez bien qu'en anglais, il y a beaucoup de mots qui viennent du vieux français. Et le jacassé, bah, tout le monde sait ce que c'est. C'est les pies qui racontent. Voilà, ça c'est jacassé.
Et par extension, jacass désigne également le parfait idiot. Éventuellement, d'ailleurs, l'idiot utile, mais ça, nous vous laisserons réfléchir là-dessus. Et ça désigne aussi des choses argotiques, tout à fait glauques, sur lesquelles nous ne nous étendrons pas à cette heure-ci. Ni à une autre heure, d'ailleurs, c'est pas la peine. Mais c'est surtout pour nous lié à un vieux souvenir, car c'est la première fois que l'orchestre Phonolite est allé jouer à Paris.
Phonolite, comme son nom l'indique, c'est la pierre qui sonne, la pierre de chez nous. Et c'est pour ça que cet orchestre auvergnat a pris ce nom-là.
Auvergnat et même cantalien, cher madame.
Absolument.
Et renforcé par quelques provençaux. Et nous avons été engagés au fameux caveau de la Huchette, où ce que vous allez entendre a été enregistré. Et ça remonte vieux, car maintenant que j'y réfléchis, c'était il y a...
Ouh là là, combien de temps ? 37 ans.
Ce qui ne nous rajeunit pas.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.